Chers frères et sœurs et chers amis, chères auditrices et auditeurs, nous continuons cette merveilleuse série concernant l'amour de Dieu. Nous en sommes à l'étude numéro 29 et nous aurons deux petites parties. La première, la salle du festin. La deuxième, la voix du Christ ressuscité. C'est l'étude numéro 29. Donc, la première partie, la salle du festin. Et voici ce que dit le roi. Le maître demande « Où est la chambre d'hôte où je mangerai avec mes disciples ?» Saint Marc, chapitre 14, verset 14. Et ensuite, nous avons Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15. « Que tu es belle, ma bien-aimée, tes yeux sont des colombes. » Nous avons maintenant, chers amis, compris de qui on parle quand le maître dit « Tu es belle, ma bien-aimée ». Le bien-aimé voit dans le regard de celle qui s'est complètement donnée à lui, c'est-à-dire l'âme, il voit le sceau de l'Esprit éternel. L'Esprit qui se posa sur lui au jour de son pèlerinage terrestre et par lequel il s'est offert à Dieu en sacrifice, devenant obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. Sous l'action de ce même esprit, l'âme qui a été rachetée, elle a choisi Christ et sa croix, et cela, quoi que cela doive lui coûter. Ou si le bien-aimé s'écrie « Tu es belle, mon ami, tes yeux sont des colombes. » Et voici la réponse de l'ami. « Que tu es beau, mon bien-aimé, c'est-à-dire Jésus-Christ, que tu es agréable, notre couche est de verdure, les poutres de notre maison sont des cèdres, nos lambrins, c'est-à-dire une riche habitation, sont des cypresses. Je suis un lys des vallées. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16, 17. Et le chapitre 2, verset 1. S'oubliant complètement, l'âme fait aussitôt remonter toute louange à celui qu'elle aime, à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car elle sait que rien n'est aimable en elle que par lui. Et parce qu'il a fait sa demeure en elle, c'est sous l'action de sa grâce qu'elle a désiré le connaître et qu'elle a pu ployer sa volonté à ne plus vouloir que ce qu'il veut. Ton peuple est un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. Psaume 110, verset 3. Oui, tout est grâce, tout est par la grâce. Et toujours plus uni au bien-aimé, et le connaissant toujours davantage, elle dit maintenant, notre maison, nos lambrins, elle dit maintenant, toi et moi, toutes choses sont à vous, et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 et 23. Son allusion au cyprès, l'arbre des cimetières, montre qu'elle a compris, peut-être de façon encore assez obscure, que l'union à la vie de Christ, elle est basée sur la communion avec lui en sa mort. la mort et la vie sont donc réunies dans l'enseignement des Saintes Écritures. La mort à la vie adamique qui a été tombée sous le coup de la malédiction, puis la vie de résurrection, c'est-à-dire la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ce double principe se trouve dans toute l'Écriture sainte, où il est exposé parfois à un langage très clair, parfois sous un langage figuré. « Tu es beau, mon bien-aimé, mais moi, je ne suis que le lys des vallées, c'est-à-dire une humble fleur qui ne mérite pas ton attention. » La réponse du roi et son estimation sont, c'est merveilleux, sont une grande reconnaissance. Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Donc, si tu es un lys seulement, dit le bien-aimé, tu es à mes yeux, tu es un lys parmi les épines. Il voit que la vie divine, sa vie croît, elle croît en celle qui l'aime et porte des fruits. Il y a donc quelque chose qui grandit, une croissance, l'humilité et la douceur, alors que tant d'autres rachetés continuent de vivre de la vie épineuse de la terre. La vie terrestre ne peut produire que chardons et épines, et sa fin est d'être brûlée. Hébreux, chapitre 6, verset 8. Au milieu des épines, celle qui vit de sa vie à lui, elle est comme un lys. L'âme dit son estimation du bien-aimé. Chapitre 2 de Cantique des Cantiques, verset 3. Comme le pommier au milieu des arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé parmi les fils. Je me suis assise sous son ombrage, son fruit a été doux à mon palais. Elle le compare donc à un arbre portant du fruit. À son immense joie, elle a trouvé en lui tout ce dont elle avait besoin. Et elle a appris à dire « notre » et « nous ». Ce n'est plus « moi » tout seul. Elle a fait la douce expérience que toutes choses sont à elle en Christ et qu'il est tout en tout pour elle. Autrefois, elle disait « je suis de Saint Paul » ou « je suis d'Apollos ». Elle glorifiait des hommes. Mais maintenant, elle a perdu de vue les fils en contemplant la gloire du premier-né d'entre les morts. Elle a trouvé en lui un frais ombrage pendant la chaleur du jour, un refuge pendant la tempête. Seul, il répond parfaitement à son attente, et le fruit qu'il donne est doux à son palais. Nous arrivons à la salle du festin. Il m'a conduite, est-il dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, il m'a conduite dans la salle du festin, et l'étendard qu'il lève sur moi est amour. Et tandis que le bien-aimé l'absorbe toute, alors qu'il est devenu son tout, il l'a conduit dans la salle du festin. Et là, il lui donne une extraordinaire révélation de son amour et comme un avant-goût de l'union qu'elle recherche. La révélation spirituelle de Christ dans le cœur est amour. Maintenant, il plaît à Dieu de révéler son Fils en elle. Galates chapitre 1, verset 7. Elle en avait déjà eu comme une vision lorsqu'il l'avait conduite à sa table. Mais maintenant qu'il lui a été révélé, elle comprend que même s'il la conduit à la croix, ce sera encore sous la bannière de l'amour. L'âme ne pourrait pas supporter le parfait exaucement de ses prières. Elle recherche instamment l'union avec le Seigneur ressuscité sans comprendre ce que cela implique pour des pécheurs rachetés et qu'elle a besoin d'une préparation et d'être fortifiée avant de le pouvoir endurer. Ranime-moi, oui, fortifie-moi, car je suis malade d'amour, s'écria-t-elle dans la salle du festin. Il s'agit d'un amour pur, divin, en Jésus-Christ. Lorsque saint Jean a eu une révélation de Christ et de sa gloire, rappelez-vous, il est tombé à ses pieds comme mort. Apocalypse chapitre 1 verset 17. L'âme réclame du secours, car la réponse qui lui est accordée dépasse ses forces. Puis elle se souvient que le bien-aimé la soutient tandis qu'il se révèle à elle. Ceci n'est-il pas suffisant? Les bras éternels la soutiennent. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 6. La parole du roi dit dans le Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 7. Je vous adjure, ô filles de Jérusalem, de ne point réveiller l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Donc, c'est le repos de l'âme qui est maintenant menacé. L'âme demeure maintenant en son bien-aimé, elle est entrée en son repos. Les filles de Jérusalem peuvent être l'image d'autres chrétiens, des chrétiens véritables. Donc on se souviendra que les filles de Jérusalem représentent d'autres chrétiens, des chrétiens véritables, des véritables enfants de la Jérusalem céleste. Galates, chapitre 4, verset 26. Ou bien quelques docteurs renommés, mais ça ne sera pas la même chose, qui ont la réputation de vivre, et cependant, ils sont morts. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, il y a là un groupe de personnes très préoccupées de l'âme, de cette âme qui veut suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ils ne se rendent pas compte qu'elle est absolument sous sa garde. Lui-même entoure et garde jalousement ceux qu'il a rachetés par son sang précieux. Chers amis à l'écoute, Jésus-Christ vous garde jalousement, car il vous a racheté par son sang. Et il voit que les filles de Jérusalem, sur le point de s'interposer, vont essayer de réveiller cette âme, de l'entraîner à quelques activités, de la remettre d'aplomb. Songe-t-elle sans doute à tout ça, alors que son bien-aimé veut qu'elle se repose? Depuis qu'elle lui a dit « Attire-moi et nous courons après toi », le maître a mis à l'épreuve le don qu'elle a fait d'elle-même et lui a montré les conditions de l'union avec lui. Il a eu l'épreuve de sa détermination à le suivre et à le connaître. Il y a donc maintenant en elle une volonté très arrêtée qui va permettre au Seigneur de lui faire faire des expériences plus profondes, de la conduire vers de plus grandes épreuves sans les délais qu'imposent les raisonnements tels que la rébellion et les hésitations. Mais il la conduira doucement. Il lui faut présentement un temps de repos avant d'attaquer. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poudre. Et je m'en rends compte à 87 ans, pensez bien. Psaume 103, verset 14. Et se reposant sur sa fidélité, dans la parfaite assurance qu'il habite maintenant dans son cœur, Colossiens 2, verset 2, elle sera fortifiée lorsque il voudra, en son propre temps, lui faire entendre sa voix. Alors elle se lèvera pour le suivre, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Le bien-aimé le fait comprendre aux personnes, inquiètes. Il y a toujours des personnes inquiètes dans l'entourage. Et il leur intime de façon très solennelle de ne point troubler sa paix. C'est comme s'il disait à l'âme qui se repose en lui maintenant et aux filles de Jérusalem, l'Éternel est dans le temple de sa sainteté et que toute la terre se taise en sa présence. Dieu est donc au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée, selon le psaume 46, verset 6. Ô filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Il faut éviter que le repos de l'âme soit menacé. Nous arrivons à la deuxième partie, c'est la voix du Christ ressuscité. Il est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu qui nous a engendrés à nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est la voix de mon bien-aimé, nous est-il dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. Oui, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Alors qu'elle se reposait encore, l'âme perçoit soudain la voix du bien-aimé et elle la reconnaît aussitôt. qu'une autre voix ne saurait plus l'émouvoir. Les autres peuvent prononcer bien des paroles, mais celles-ci ne pénètrent pas en elles. Le bien-aimé se révèle maintenant comme étant le Seigneur ressuscité, et elle le voit bondissant sur les collines comme la gazelle. Le titre du psaume 22 est celui-ci, « Biche de l'aurore ». Et c'est un symbole de résurrection. Il vient à elle comme de l'extérieur et l'appelle à le suivre au désert pour apprendre à connaître davantage son Dieu. Elle était restée dans la joie des révélations dont elle avait été l'objet et avec l'assurance qu'il demeurait en elle, goûtant un repos qu'aucun bruit de la terre n'avait pu troubler. Mais maintenant, il faut qu'elle apprenne à se confier en lui en dehors de toute révélation. Sa foi doit reposer sur le caractère du bien-aimé et sa parole, plutôt qu'en ses manifestations. Elle doit penser à lui plutôt qu'à la vigne et comprendre que, à ses yeux, elle être rendue conforme à son image, ça c'est beaucoup plus que le service. Bien sûr que le service est bien, pour autant qu'on n'oublie pas que tout mérite et tout notre amour, nous le devons à Jésus-Christ. N'oublions jamais cela. L'âme peut dire maintenant « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Le voici, il se tient derrière notre mur, il regarde la fenêtre, il se fait voir par le treillis. » Cantique des Cantiques 2, chapitre 2, verset 9. L'âme le contemple comme s'il était en dehors d'elle. Il essaye de détourner son attention des expériences intérieures. Elle le voit d'abord allant avec la rapidité de la gazelle, puis il se tient debout. Il n'est plus assis à sa table. Debout derrière notre mur, elle ne craint plus de dire notre. Elle a dit notre. Elle ne craint plus de dire « notre » maintenant, et elle se réjouit à la pensée qu'il est avec elle dans la salle du festin, dans la retraite cachée de son cœur. Elle pense que ce mur est dans les desseins du bien-aimé. En quoi elle se trompe pour le moment? Elle ne voit pas que c'est un obstacle qui l'empêchera de se révéler aux autres par elle et qu'il fait partie de cette vie terrestre qui doit disparaître. Il faut que les murs soient renversés, nous est-il dit dans Ésaïe, chapitre 22, verset 5. Il n'y a point de mur de séparation dans la vie céleste. Gloire à Dieu. Sur la croix du calvaire, le Christ a brisé le mur de séparation entre l'homme et l'homme, aussi bien qu'entre l'homme et Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 14, 15 et 16. Il est mort pour qu'il y ait une nouvelle création, un nouvel homme parfait dans l'unité. Saint Jean chapitre 17, verset 23. En lui doivent cesser donc toutes les divisions que provoque le péché. Ô âme, ce mur que tu nommes notre mur, doit être détruit si tu veux être uni au Seigneur dans sa vie d'amour répandue en faveur des autres. Mais dans la salle du festin, l'âme ne pense pas aux autres. Elle est bien trop absorbée par ses jours de ciel sur la terre et elle ne désire pas regarder au-delà ni se tourner vers ceux qui ont le cœur brisé et que la tristesse accable. Comme l'apôtre Pierre, elle est prête à oublier la multitude dans la gloire du monde de la transfiguration. Il a dit, l'apôtre Pierre, il fait bon ici, construisons des tentes. Celui qui a connu la venue du Consolateur et la révélation du Christ dans le tabernacle du cœur, il connaît aussi le danger qu'il y a, sur le moment même, de s'estimer spirituellement très haut. Danger de regarder les autres avec une certaine pitié. Danger de porter sur eux, bien qu'inconsciemment, un jugement. Crainte des devoirs qui nous enlèveraient aux joies de la communion intérieure, communion si absorbante qu'elle rend difficile tout retour aux choses de cette vie, tout intérêt dans les affaires en apparence si futiles, si indifférentes de ceux qui nous entourent et incapacité à comprendre des choses pratiques et réellement importantes parce que tout ce qui est extérieur ne semble plus que l'écho lointain d'un autre monde. Plus tard, avec plus de lumière, une vision plus étendue, nous discernerons toutes les imperfections de ces jours-là et nous comprenons ou comprendrons que les fils de notre mère se soient irrités contre nous en discernant les possibilités de l'égoïsme spirituel et qu'ils aient craint que les vignes eussent à en souffrir. Leur erreur, c'est de n'avoir pas compris que le Seigneur conduirait à bien l'œuvre qu'il avait commencée et qu'il guiderait l'âme rachetée au temps marqué par lui vers une activité multipliée, fécondée par la puissance du Saint-Esprit. L'âme, dans la joie de la communion intérieure, ne discerne pas que toute l'attitude du bien-aimé est celle de l'action. Il reste debout, comme prêt à se retirer. Il regarde à la fenêtre de son âme, essayant de lui communiquer de nouvelles lumières. Tout en lui semble dire « Lève-toi et suis-moi ». Mais elle est trop heureuse dans la salle du festin pour comprendre. Plus tard, elle discernera plus promptement la pensée du Seigneur et elle comprendra immédiatement ce qu'il veut lui dire. Mais à ce moment-là, elle est encore trop enveloppée dans la vie d'ici-bas pour comprendre autre chose que le langage pur et simple. Il est obligé de lui parler, et que dit-il? Chapitre 2 de Cantique des Cantiques, verset 13. Il lui dit, « Mon bien-aimé, parle et me dis, mon bien-aimé, parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens !» Car l'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent, le moment de tailler est vraiment venu. « Lève-toi, mon ami, et viens !» Oui, cela est un condensé en même temps du chapitre 4 de Cantiques des Cantiques, versets 10 à 16, selon d'anciens écrits. Je le répète parce que c'est très beau. Mon bien-aimé parle et il me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens !» Car l'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent, le moment de tailler est venu, donc lève-toi, mon ami, et viens. Cette fois, l'âme, heureusement, commence à comprendre. Il lui a dit clairement, lève-toi. Mais n'est-ce point lui qu'il a amené dans son repos et qui a défendu que d'autres la troublent? Que veut-il dire? Viens. Viens. Pour aller où? Or, l'heure a sonné pour elle de faire l'expérience de son identification avec le Seigneur en sa mort, puis en sa vie de résurrection. Ensuite, il pourra lui parler clairement du Père, Saint Jean, chapitre 16, verset 25. « Je suis le chemin, et nul ne vient au Père que par moi. Je m'en vais à mon Père. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Saint Jean, chapitre 14, verset 6, verset 12 et le verset 20. C'est bien Saint Jean, chapitre 14. Il est mort, lui, le juste, pour les injustes, afin de pouvoir nous amener à Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Par le voile déchiré de sa chair, lui, le chemin nouveau et vivant, essaye de nous amener à demeurer avec lui en Dieu le Père. Il compare la période de repos à une saison d'hiver pendant laquelle la vie nouvelle a été enracinée et fondée dans l'amour. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Elle doit être fortifiée pour pouvoir recevoir toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Pendant l'hiver, la sève se réfugie dans les racines et il n'y a plus d'apparence de vie. Mais maintenant, l'hiver est passé et il est temps de se lever, car voici le printemps. Silencieusement, les pluies de l'Esprit-Saint sont tombées et on prépare l'âme pour sa vocation. Le bien-aimé voit des fleurs. Il voit aussi une quantité de sarments qui ont besoin d'être taillés avec sagesse. Il commence à manifester sa volonté dans les choses extérieures de la vie pour qu'elles soient mises d'accord avec l'état intérieur de l'âme. Pendant le temps de repos, il n'a cessé de travailler profondément, silencieusement en elle. Elle s'occupait de lui. Lui s'est occupé du développement des racines afin que le moment venu d'émonder, elle fut capable de supporter l'action du divin vigneron. Et nous terminons en disant « Lève-toi, mon ami, et viens. Il faut que tu collabores avec moi pour cette œuvre. Oui, il faut que tu comprennes ce que je fais, que tu le vives si tu veux me connaître moi et faire la preuve de ma puissance et de ma vie sans limite. Viens et je te ferai connaître le Père. Amen. » Chers amis, nous allons prier ensemble. Et comme cette étude était très courte, je vous mettrai, Dieu voulant, si ça fonctionne, quelques chants qui ont été chantés par la meilleure chanteuse du gospel de tous les temps, qui est maintenant, il y a déjà un bien long moment, vers le Seigneur. C'était Mahalia Jackson. Et évidemment, ça a été, je l'avais enregistré sur une cassette au temps où mon épouse et moi avions fondé une mission sur cassette qu'on envoyait dans des villages éloignés où il n'y a pas d'église. Malheureusement, on a fait tout ça gratuitement, c'est normal, mais c'était peut-être une erreur. Je ne peux pas vous le dire parce qu'on a perdu pas mal d'argent avec ça, mais c'est pour le Seigneur. Nous devons parfois aussi accepter de nous investir sans toujours penser qu'on reçoit en retour immédiatement. Prions donc maintenant. Père notre Dieu, nous te remercions pour ton Fils qui est maintenant notre Maître qui guérit. Oui, ces prières sont pour vous, chers auditeurs et auditrices, qui peut-être souffrent. Il y en a parmi vous qui souffrent. Il y en a d'autres qui sont malades. Ils souffrent aussi. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner des prières qui sont spécifiques pour vous qui avez n'importe quel problème que le Seigneur veut vous aider à résoudre ou de vous enlever le fardeau qui pèse trop lourd. Donc, je recommence et nous allons dire « Père, tu es vraiment notre Dieu. » Et nous ne pourrons jamais assez te remercier pour ton Fils bien-aimé qui est maintenant notre Maître, et je dis bien qui est capable de guérir ceux qui écoutent. Oui, par ton simple toucher, tu apportes l'autorité divine. En étudiant ta sainte parole, nous comprenons bien mieux aujourd'hui que c'est la philosophie gréco-romaine qui a fait croire les croyants que la maladie était envoyée par Dieu et que c'est une épreuve pour le bien de l'âme, l'esprit et le corps. Merci Seigneur de nous apprendre que celui qui croit en toi et qui est sauvé peut sans autre savoir qu'il est sauvé pour servir. L'Esprit Saint nous fait comprendre maintenant que l'onction d'huile est un sacrement de guérison et de pardon des péchés. Oui, en effet, l'onction d'huile s'adresse au cœur à l'âme et à l'esprit du malade autant qu'à la détresse mentale et physique du malade. Seigneur, merci que dans ces temps troublés, dans les temps que nous vivons, tu désires susciter des vocations, des frères et sœurs qui sont prêts à te servir dans les diverses églises, afin que toutes les églises puissent devenir des havres d'accueil vivants. Amen. Et à présent, j'essaye de vous mettre quelques chants de Mahalia Jackson pour autant que ça fonctionne.